4, le verset 7. Et ensuite, nous étudierons le passage du chapitre 30 qui institue le problème de la tchoua. Bien, nous allons étudier brièvement un enseignement de la Gemara concernant la différence qu'il y a par rapport à la possibilité du repentir s'il y a eu faute entre les prérogatives de l'individu et les prérogatives du tzibour, c'est-à-dire du groupe, en tant que klal Israël. Est-ce qu'on peut fermer la porte là parce que ce bruit me dérange là. Et ça nous servira d'introduction à l'étude du texte de base qui institue le principe de la possibilité même de la tchouva. Je vais d'abord, très rapidement, quelques phrases pour poser cette question. C'est-à-dire que, peut-être par le biais d'un enseignement auquel vous êtes familier, mais qui va nous permettre de nous introduire dans le sujet. Nous allons essayer ce soir de travailler un peu rapidement à cause de la température et chaque année nous faisons la même imprudence de faire durer le séminaire jusqu'à la veille de Kippour. Je crois que c'est une erreur, mais chaque année on tombe dans la même erreur. Ouvrez quand même le ventilateur, mettez-le le plus faible possible parce que je crains que dans pas longtemps tout le monde va dormir. Si j'en juge d'après ma propre... tout faire, si j'ose dire. Bien, je poserai la question de la manière suivante. Nous sommes tellement familiers aux enseignements de la tradition qui nous viennent d'une éducation, d'une tradition qui a duré près de 4000 ans, qui commence avec la famille des patriarches. Je vous en prie, ne croisez pas les jambes quand on étudie cette interview. Il y a des notions, des valeurs qui nous sont ressorties de l'évidence, alors qu'en réalité, elles ont été une conquête, et une conquête parfois très difficile, de ce que j'appellerais d'une façon générale, la vie spirituelle de l'humanité, avec, nous suivrons comme fil conducteur, la ligne centrale, selon le récit de la Bible, qui passe, en fin de compte, à partir de la famille des patriarches, l'identité hébraïque d'il y a pratiquement 4000 ans, dans la ligne des engendrements d'Israël, de la société d'Israël. J'aurais à revenir sur un recodage plus précis de tel ou tel aspect de ce que je viens de dire. Et en particulier, une des notions que je prendrai comme exemple, puisque c'est le sujet de notre étude ce soir, de cette familiarité que nous avons avec un certain nombre d'évidences de la vie spirituelle, mais qu'il faut redécouvrir pour bien les comprendre, qu'elles ne sont pas du tout homogènes, qu'elles ne sont pas du tout familières. Je cherche des mots en français, mais si ça manque, vous réintégrerez par vous-même à ce que j'appellerais la pensée naturelle. Ce que j'appelle la pensée naturelle, ce n'est pas la pensée primitive dans le sens de la pensée sauvage. Vous savez que déjà depuis un certain temps, les sociologues et les anthropologues ont corrigé cette erreur de croire que la pensée primitive serait une pensée infantile. Et en réalité, la pensée naturelle peut être très sophistiquée. Mais ce que j'entends par la pensée naturelle, par rapport à cette familiarité avec l'enseignement de la Bible qui nous vient encore une fois, de la tradition de la nation d'Israël, donc de la tradition de l'identité hébraïque, qui est une identité bien particulière, puisque c'est elle qui est concernée par la révélation biblique, eh bien, la pensée non informée par la révélation qui vient du dehors de la conscience humaine. Je crois que cet exemple de la notion du repentir va nous servir de levier pour découvrir une fois de plus ce problème. C'est-à-dire que il y a, si vous voulez, une confusion qui vient de ce que les penseurs de la pensée naturelle, je dirais d'une façon générale, les philosophes, ont lu la Bible. Non seulement ils ont lu la Bible, mais ils vivent dans une ambiance culturelle imprégnée de l'enseignement de la Bible. Il y a donc une sorte d'amalgame entre ce qu'est la pensée naturelle qu'il faut entendre telle qu'elle s'est exprimée dans les grandes doctrines intellectuelles et spirituelles de l'humanité en dehors et avant la diffusion de l'enseignement de la Bible, et d'autre part les catégories propres à l'hébreu des prophètes et au contenu de l'enseignement de la Bible. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors, je n'aurai jamais le temps, même pour cet exemple particulier de la notion de repentir, de montrer à quel point il s'agit de ce que nous appelons en hébreu d'un chidouche, le fait d'apprendre quelque chose de radicalement nouveau qu'on ne peut pas comprendre par soi-même, un chidouche de la prophétie hébraïque. La notion de repentir est employée dans la culture contemporaine, dans beaucoup de secteurs. Quel que soit le diagnostic d'un désordre quelconque qui mène à ce que on a l'habitude d'appeler une faute, eh bien, on est habitué à l'idée qu'on peut réparer ce désordre, réparer la faute de cette faute, dans la mesure où il y a un repentir sincère. Mais je voudrais un peu plus préciser le sens de ce terme pour essayer de montrer que, en réalité, cette évidence, entre guillemets, est une conquête de l'esprit humain qui dérive de l'enseignement de la prophétie biblique. Et de nouveau, nous retrouvons la même difficulté. Nous parlons en français de contenu qui concerne la réalité hébraïque, et comme vous le savez, le français et l'hébreu sont deux langues qui sont de deux univers radicalement différents. Je le répète encore pour bien le préciser, le français est une langue très riche, très nuancée, c'est le véhicule d'une très grande culture, mais c'est une langue qui est déjà de son origine purement sémantique, et c'est une origine d'ailleurs multiple. Il n'y a pas que l'arrière-fond celte ou occitan qu'il peut y avoir dans la familiarité avec le français comme langue d'un certain terroir, mais il y a tout un héritage de mentalité grecque et romaine, entre autres. Et il faut savoir déjà que la civilisation romaine, après la civilisation grecque, était en rivalité avec la civilisation hébraïque. Alors si on emploie des termes du français pour parler de choses qui sont en contestation entre la sensibilité gréco-romaine et la sensibilité hébraïque, il faut être averti d'emblée qu'on est en pleine confusion. Et en plus, le français, tel quel, véhicule une spiritualité chrétienne, d'ambiance chrétienne. Et ce qui est un autre niveau de rivalité et de contestation sur précisément les catégories employées par l'enseignement de la Bible. Même lorsque le français est déchristianisé, dans sa manière même d'être déchristianisé, il reste très profondément pétri et imprégné de culture chrétienne. Je n'ai pas en tête un exemple qui me viendrait à l'esprit suffisamment succinct pour ne pas prendre trop de temps, mais je prendrai, je ne sais pas pourquoi j'en parle maintenant, un exemple qui montre cette difficulté du langage, de dialogue en français lorsqu'on parle des réalités hébraïques, alors que le français véhicule des évidences de l'ordre de la spiritualité chrétienne. J'aurais peut-être pris l'exemple de la prière. Qu'est-ce qu'un homme de culture française entend lorsqu'il dit la prière? Et qu'est-ce qu'un hébreu entend lorsqu'il dit la tefila? Mais ça nous prendrait trop de temps. Je vais le faire pour la teshuvah, mais que l'on traduit par repentir. Pour donner un exemple, pour vous montrer à quel point le problème est important et sérieux. Parce que cela a envahi la communauté juive elle-même. Dans le cas dont je parle, la communauté juive francophone, mais multipliée par toutes les cultures de la diaspora qui existent dans le monde juif, pour montrer à quel point le rassemblement des juifs revenant des ambiances culturelles étrangères pose un problème difficile de la culture israélienne, dans quelle manière on retrouve effectivement une véritable inspiration hébraïque de l'hébreu. Ça prendra un temps difficile, un processus extrêmement difficile. On projette sur l'hébreu des mentalités de dictionnaire qui nous viennent de langues étrangères. Je l'ai indiqué en particulier pour le français, mais multiplier cette difficulté par l'espagnol pour lui-même, l'italien pour lui-même, l'anglais, l'allemand, le russe, etc. Sans compter des langues afro-asiatiques. Pour montrer donc à quel point nous sommes confrontés à un problème difficile, simplement je vous donnerai l'exemple qui m'est venu à l'esprit pour montrer la difficulté. Est-ce que nous parlons de la même chose lorsque nous disons repentir en français et teshuvah en hébreu? L'expérience nous montre que énormément de faux problèmes viennent de ce que l'on pense les catégories de l'enseignement hébraïque à l'aide de conceptualisations étrangères. Je donnerai donc l'exemple que j'ai à l'esprit. Eh bien, parce que nous sommes occupés à des mises au point assez difficiles de dialogue avec les chrétiens, en particulier avec un courant de christianisme qui est assez contemporain du point de vue du calendrier. Ce matin encore, j'ai reçu une de ces délégations dans mon bureau de chrétiens qui viennent dans cette période de 10 jours de pénitence, et en particulier la veille de Kippour, pour des séminaires de méditation et de prière, de repentir du monde chrétien vis-à-vis du peuple juif. Ça vous est très peu connu peut-être, je suppose, c'est pas encore tellement connu officiellement, mais c'est un courant qui existe depuis quelques années. Et alors, ça nous oblige à être confrontés avec cette difficulté de savoir si nous parlons des mêmes choses. Alors je vous donne cet exemple simplement pour les Hadid, pour rendre pointu ce problème de la difficulté du fait de parler en français de catégorie hébraïque. Vous allez me dire que c'est un énorme paradoxe que je vous explique ça en français et à Jérusalem. Bon, le problème est un problème sociologique simple. Nous sommes en période de transition et les Juifs redeviennent hébreux, et c'est ça la société israélienne, c'est des Juifs qui redeviennent hébreux. Il faut donc une langue culturelle de transition pour passer des langues étrangères à l'hébreu, à la langue ancestrale et à la langue de la révélation biblique, sans perdre le bénéfice de l'acquis de ces cultures étrangères qui sont de très hautes cultures, dans le cas en particulier la culture française. Comment faire pour oublier comment faire pour ne pas se rappeler sans oublier? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et j'ai l'habitude très souvent de dire au début de l'année d'études que lorsque vous commencerez à rêver en hébreu, c'est gagné. Du temps que vous continuez à rêver en français, vous rêvez en français. Et ensuite, il y a un deuxième problème qui est important, mais qui est secondaire, enfin second. Si on rêve en noir et blanc ou en couleur, c'est encore un autre problème. En tout cas, pour revenir au sujet, alors ce matin, nous étions occupés avec un pasteur et un prêtre catholique et un prêtre orthodoxe. J'ai mis beaucoup de temps pour essayer de leur faire comprendre l'impossibilité du dialogue à moins qu'on décide de parler 6 langues à la fois. C'est-à-dire, je veux dire de quoi il s'agit, il faudrait pour que ce dialogue soit possible, parler simultanément, qu'il soit engagé par des gens qui connaissent ensemble, qui connaissent l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, et l'arabe, et pourquoi pas une langue pour parler, alors pourquoi pas le français? Mais le français ne suffit pas, il faut aussi l'anglais, l'espagnol, l'italien et tout. Bon, oui, c'est un problème difficile. Alors on parle tout simplement de la catégorie Dieu le Fils. Alors j'ai mis longtemps pour expliquer que l'expression le Fils de Dieu est une expression de la Bible hébraïque, et ça veut dire la créature. Dieu appelle la créature qui est conforme à son projet de créateur fils, parce que c'est dans une relation filiale. Le premier mot hébreu, c'est le mot de Av, le père, parce qu'il est formé par les deux premières lettres de l'alphabet hébraïque. Vous avez remarqué ça tout seul. Aleph, Bet, ça fait Av. Le premier mot, c'est le père. Et donc, Le créateur a un projet pour sa création. Lorsqu'il diagnostique selon ses propres critères de créateur qu'il y a dans un point de la créature une créature qui est conforme à son projet de créateur, elle est appelée fils. Donc le fils de Dieu, c'est la créature réussie. Et voilà qu'on entend un doublé inversé, Dieu le fils. Et ça, c'est une catégorie païenne qui vient de l'univers culturel et cultuel gréco-romain. Vous avez compris à quel point c'est extrêmement difficile. On est renvoyé vraiment à une difficulté. Cette difficulté s'atténue lorsqu'on étudie en hébreu. Mais au fond, elle est en filigrane, parce qu'on ne sait pas très bien si la signification du concept de celui qui parle hébreu n'est pas encore française ou anglaise ou germanique ou latine. Je ne sais pas si c'est clair ce jeu-là. Est-ce que c'est suffisamment clair ce jeu-là? Bien. Eh bien voilà, postulat de ce que nous avons étudié, la notion de repentir comme l'entend la Torah est une notion qui est propre à la tradition hébraïque. Et lorsque ce terme est employé comme il est employé dans la culture en général, dans la culture générale en général, il faut bien préciser ce quoi il porte. Voilà quel est le midrash que je voudrais indiquer. C'est un midrash qui est très connu, qui se trouve sous deux formes dans le Talmud, et je vous dirai un peu la différence entre ces deux formes. C'est que on ne peut pas ne pas remarquer que finalement, il y a un cas particulier dans l'histoire de l'humanité, c'est le cas particulier d'Israël, en tant qu'Israël a été le lieu de la révélation prophétique. Et bien entendu, le postulat de cette analyse, c'est que la révélation prophétique, il faut la prendre au sérieux. Si le prophète dit « Je vous transmets ce que Dieu m'a dit », ou bien c'est un pieux mensonge, ou bien c'est vrai et on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Vous suivez? C'est pas trop vite? Pourquoi on ne comprend pas? Parce que le fait de prophétie, tel qu'en parle la Bible, s'est arrêté il y a 2400 ans. Il s'est arrêté au temps de la destruction du premier temple. Et au temps où a commencé la grande dispersion du peuple d'Israël hébreu. Il y a des raisons, que en particulier Judas Lévi a mis en évidence, pour cet arrêt de la prophétie. Je vous le dis très rapidement, il y a deux raisons essentielles. D'une part, la destruction de la nation hébraïque et le commencement de la dispersion du peuple hébreu, de la nation hébraïque, et surtout le fait que la prophétie de la Bible ne concerne que le pays d'Israël, ne concerne que les habitants du pays d'Israël. Je veux dire, on ne touche en tant que capacité prophétique que les habitants du pays d'Israël. Très rapidement, objection que Judas Lévi se fait lui-même. Pourtant, des prophètes en dehors du pays d'Israël ont été d'authentiques prophètes de la Bible, par exemple Moïse, mais il met en évidence, Judas Lévi met en évidence que leur prophétie, Ézéchiel à Babel, etc., que leur prophétie ne concerne jamais que le pays d'Israël. Lorsqu'on lit toute la prophétie de la Bible, on s'aperçoit que Dieu s'adresse à l'humanité tout entière, mais à travers l'identité hébraïque et à travers le pays d'Israël. Ça se relie à un autre mystère, mais des mystères entre guillemets. Comment se fait-il, comment comprendre que l'humanité entière se réclame de notre patrie comme étant leur terre sainte? On est tellement, encore une fois, familier à cela qu'on ne se rend pas compte de l'énormité du problème. Okay. Et aujourd'hui, je suis en train de penser que c'était déjà un problème caché dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est tellement évident que l'humanité entière réclame Jérusalem, que l'humanité entière réclame le pays d'Israël comme terre sainte, par pays arabe interposé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait la queue pour savoir qui est propriétaire de Jérusalem. Alors c'est tellement énorme que ça pose un problème. Comment se fait-il qu'il en soit ainsi? Parce que des événements se sont passés dans l'histoire d'Israël qui ont concerné l'universel humain d'autre part. Mais pour le dire très, très rapidement, je me souviens que vous m'avez peut-être entendu le dire une fois à la radio en français, il n'y a pas très longtemps. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec des ecclésiastiques chrétiens au moment de la libération de Jérusalem en 67. Et alors, il y avait tout un colloque au Congrès juif mondial à Paris, et où on demandait instamment aux juifs de ne pas se conduire avec les arabes comme les chrétiens s'étaient conduits avec les juifs lorsqu'ils avaient compris la Bible. Je sais pas si vous voyez un peu que après tout, c'est une ville universelle. Et alors, un des arguments qui était mis en évidence de l'appartenance arabo-islamique de Jérusalem, c'était que le prophète Mahomet a rêvé qu'il s'envolait sur une jument ailée de l'esplanade du temple de Jérusalem. Donc ça appartient aux Arabes. Mais je ne vous dis pas des blagues, ils y croient Dieu comme père. Hein. Vous connaissez cette histoire, je crois que sa jument s'appelle Barak Moshe Kazem, j'ai oublié. Mais voilà, Mahomet a rêvé qu'il s'envolait sur la jument ailée à partir de l'esplanade du temple, donc une ville sainte de l'islam. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache quelque chose. Parce que l'islam, c'est un morceau considérable d'humanité. Eh bien, alors j'ai eu à répondre à la chose suivante. Vous savez que le 14 juillet est une date très importante de l'histoire juive. De l'histoire juive. Parce que c'est le 14 juillet qu'a commencé le processus d'émancipation des juifs en Europe et qui a mené finalement à l'existence de l'État d'Israël. Je vous raccourcis toute l'histoire contemporaine, comment ça passe de la prise de la Bastille au sionisme. Enfin, ça, c'est partie de l'histoire juive. En tout cas, ce n'est pas une raison pour réclamer l'internationalisation de la place de la Bastille. Voilà, c'est exactement le problème. Quoique les juifs français se sont arrangés quand même pour annexer la place de la Bastille. Plus encore une organisation. Ça peut être ça. Alors on apprend dans ce midrash que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations du monde. Bon, c'est déjà énorme comme introduction. Ça se relie à mon problème. Quel est ce cas particulier de ce tout petit peuple d'Israël qui a été le lieu et le véhicule d'une révélation qui, en fin de compte, concerne l'humanité entière? Si ça concernait l'humanité entière dans la perspective de la reconnaissance d'une famille pour le frère aîné, vous comprenez toutes les allusions que j'emploie en parlant, ben, on pourrait s'arranger. Mais c'est une contestation d'héritage. Qui est-ce que le testament désigne comme légataire universel? Et comme vous le savez, on est riche en testament. Eh bien, je reviens donc au problème. Et on ne peut pas ne pas découvrir un problème très important. N'y aurait-il pas à l'origine quelque chose de l'ordre de l'injustice qui ferait qu'une certaine manière d'être homme, en particulier l'identité hébraïque, serait privilégiée par rapport à l'ensemble de l'humanité, mais au nom d'une révélation qui commence par dire que l'humanité entière est la créature du même Dieu qui privilégierait cette petite famille humaine en particulier. C'est d'ailleurs un des fonds de la contestation de l'islam et de la chrétienté sur l'élection d'Israël, bien que cette contestation est très différente dans l'islam et dans la chrétienté, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Et effectivement, la question se pose au milieu juif lui-même. Comment nous, juifs, nous, hébreux, pouvons-nous comprendre ce masopanim, comme on dit en hébreu, le fait de préférer de manière arbitraire quelqu'un à quelqu'un d'autre. Masopanim, comme on dit ça en français. Une espèce de complaisance que Dieu aurait vis-à-vis des juifs. Pourquoi eux, finalement? Masopanim. Aidez-moi à traduire. Oui, j'ai oublié. Favoritisme. Avoir un faible pour, mais c'est un peu faible comme traduction. Favoritisme, ça va mieux. Et d'ailleurs, le Talmud pose la question que les nations du monde reprochent à Dieu. Tu as écrit dans ta Torah que tu es Veloïsa Panim, tu ne tiens pas compte. Ça m'est difficile à traduire. Je vais vous décrire de quoi il s'agit, vous allez m'aider à trouver le mot. Il y a des règles pour la juridiction, des règles du Talmud, qui est que s'il y a une contestation de deux plaideurs, un riche et un pauvre au tribunal, le riche doit s'arranger pour que le pauvre soit habillé de la même façon que lui. pour ne pas induire le juge en tentation de privilégier un vis-à-vis de l'autre, et la discussion s'inverse dans le Talmud, et pour ne pas risquer de privilégier le pauvre parce qu'il est pauvre. Je ne sais pas si vous avez compris jusqu'où ça va. Et alors, à ce moment, on cite l'expression « velo issa panim ». C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des complaisances. Et semble-t-il, Dieu a une complaisance étonnante, d'ailleurs, pour le peuple d'Israël depuis l'origine. C'est un sujet pour lui-même. C'est toute une histoire. Hein. C'est une histoire d'amour avec querelle conjugale permanente. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et d'ailleurs, si vous lisez le prophète Osée, Oséa, il a des chapitres très osés, d'ailleurs, où il dit très, très clairement, si vous voulez, je vous citerai le verset, que Dieu s'est interdit à lui-même, de façon définitive, de changer Israël par un autre peuple. Parce que la tentation est trop grande. Et Dieu dit à Israël, si je ne m'étais pas juré de ne pas vous remplacer par un autre peuple, il y a longtemps que je l'aurais fait. D'ailleurs, donc il y a là une complaisance totale. C'est le prophète qui parle, c'est Osée. D'ailleurs, ça me rappelle une intention de prière, et certains d'entre vous ont dû certainement entendre, que pourquoi les juifs, tous les matins, remercient Dieu de ne pas les avoir fait non-juifs. Parce que sinon, ils auraient risqué d'être anti-juifs. Vous ne connaissez pas ça. Bon, ceci dit, il ne faut pas dire du mal des juifs, c'est interdit. Alors, je reviens en tout cas au sujet. De quoi est faite cette préférence? Et alors, c'est ce que beaucoup de gens appellent le mystère de l'élection d'Israël. En fait, vous pensez bien que lorsqu'on lit la Bible attentivement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mystère. La Bible commence par raconter l'histoire de l'humanité depuis le premier homme, et c'est très clair, il faut l'étudier, et en hébreu, mais c'est très clair pourquoi, en fin de compte, c'est Abraham qui est Abraham, et pas quelqu'un d'autre. C'est pas que Dieu a péché à la ligne, j'en veux un, c'est celui-là, et c'est tombé en face d'Im et chez Abraham, la grâce arbitraire, comme dirait, je ne sais plus quel théologien de Port-Royal, mais la Torah commence par nous donner la carte d'identité d'Abraham. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, jusqu'au premier homme, on comprend pourquoi ça passe par là et pas ailleurs. Et une fois que ça passe par là, il y a une adresse, une ktovet, mais c'est à l'échelle universelle. N'importe qui peut devenir fils d'Abraham, mais à certaines conditions d'authenticité, d'identité. Donc, il n'y a pas de mystère. Ça s'étudie. La Bible est d'abord la carte d'identité d'Israël avant d'être sa charte d'identité comme loi. Ceci dit, la question se pose. Et alors voilà comment le Midrash la pose. Dieu a proposé la Torah à toutes les nations, et les nations ont refusé. Alors en fait, lorsqu'on étudie la source du Talmud qui parle de cela, on s'aperçoit, et je vous donnerai tout de suite deux exemples, on s'aperçoit que si tel ou tel peuple de l'universel humain a refusé la Torah, eh bien c'est pas pour refuser toute la Torah. C'est pas pour refuser tout le contenu des valeurs morales. C'est à cause d'un des commandements de la Torah, chaque fois, qui lui semble être incompatible avec son identité humaine particulière à telle ou telle nation. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et je vous donne deux exemples. Mais je voulais surtout préciser sur quelle formulation, girsa en hébreu, du Midrash je me base. C'est la formulation qui nous montre que Dieu propose la Torah d'abord aux nations qui descendent de la famille d'Abraham, qui procèdent de la famille d'Abraham. C'est une chose qui est pas gardée lucidement à travers l'histoire des historiens, mais de la famille d'Abraham, il y a toute une série de nations qui ne sont pas Israël, qui se rattachent à l'origine à la famille d'Abraham. En particulier, les Ammonites et les Moabites, Ammon et Moab, qui descendent de Lot, le neveu d'Abraham, le fils de son frère Haran. Il y a les Araméens, qui descendent de l'autre frère d'Abraham, Nahor, qui a fondé la nation de Aram. Il y a Ishmaël, fils d'Abraham, qui s'appelait encore Abraham, avant de se nommer Abraham. Et il y a Ésaü, fils d'Isaac, frère jumeau de Jacob et son rival sur l'identité Israël, toutes ces nations sont très proches d'Israël. C'est à elles d'abord que Dieu s'adresse, parce qu'elles ont le plus de chances possibles de pouvoir peut-être accepter la Torah que finalement Israël seul acceptera. Et elles refusent. Et c'est à travers elles que, pour les 70 nations, qui est le chiffre symbolique pour dire l'universel humain, Dieu a proposé à la Torah l'humanité entière. Et d'ailleurs, si on suit l'histoire attentivement par rapport à ce principe que le Midrash analyse ainsi, on s'aperçoit que dans l'histoire de ces 4000 ans d'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à travers ces différentes nations issues de la famille d'Abraham, mais qui ne sont pas Israël, que le message d'Israël a trouvé le relais pour les 70 nations. Je vais vous donner énormément d'indications sur ce sujet, mais ça nous écarterait trop. Et alors, une question reste, qu'on étudie dans le Talmud, à travers quel prophète Dieu s'est adressé à ces nations-là. Tout ceci s'étudie aussi. Et finalement, je vous donne deux exemples classiques. Et pour illustrer ce fait que si les nations du monde ont refusé la Torah, c'est pas pour refuser la Torah, c'est à cause d'un des commandements de la Torah, de l'ensemble de la charte de la valeur morale, qui a 613 dimensions, comme vous le savez, eh bien, qui leur semble incompatible avec leur identité anthropologique. Voilà les deux exemples que je vous donnerai. C'est lorsque la Torah est proposée à Ishmaël. Et ça veut dire quoi, proposer la Torah et accepter la Torah? Ça veut dire accepter de confier le sort de la destinée, de sa propre destinée, au jugement de la moralité. Et c'est pourquoi toutes ces nations, qui se réclament du Dieu d'Israël à leur manière, ont séparé la morale et la religion. Je crois que l'exemple le plus clair, c'est l'exemple du christianisme. Ça ne veut pas dire que le christianisme se veut immoral, mais en tant que religion, il est en dehors du salut par la moralité. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Pour ceux qui connaissent un peu la culture chrétienne, c'est suffisamment clair. Par exemple, si je prends cette phrase « Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, rendez à César ce qui appartient à César », cette séparation entre la politique et la religion, c'est essentiellement d'abord une séparation entre la politique et la morale, parce que la morale avait été séparée de la religion. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et, ou bien la phrase « Tout est permis, mais tout n'est pas convenable ». Ça veut dire qu'on retrouvera ce problème tout à l'heure. Lorsque, en mentalité occidentale, on parle du repentir, se repentir vis-à-vis de quoi? Et puisqu'on n'a pas accepté la Torah, c'est-à-dire on n'a pas accepté ce principe que sa propre destinée en tant que créature est jugée par rapport au problème moral, c'est-à-dire par rapport aux fautes. Et le terme de faute doit être entendu en hébreu d'abord au niveau du problème moral. La faute du premier homme, c'est de mettre la morale en question. Ce n'était pas une faute religieuse, entre guillemets, comme le croient avec raison, d'autre part, parce que c'est vrai aussi, les consciences pieuses, lorsqu'elles parlent de faute, elles voient tout de suite des problèmes de faute liturgique, de faute du code religieux. Alors qu'il s'agit d'abord de faute quant à la moralité. Je vous donnerai un exemple très clair du jugement de l'humanité qui a mené au déluge. Prenez les versets qui sont préface et introduisent le récit du déluge. Ça s'est passé depuis si longtemps, on est tellement familier à ce récit qu'on ne se rend pas compte de la catastrophe inouïe que ça a pu représenter dans l'histoire de la créature du Créateur. Dieu qui décide d'annuler un monde entier et effacer tout ce qui s'est passé pendant les 10 premières générations de l'histoire de l'humanité. Et là, le verset qui dit la raison pour laquelle le sort de l'humanité au temps du déluge a été scellé, définitive, et tout le monde était condamnable, même Noé, puisqu'il a trouvé grâce, et qu'il a trouvé grâce, et qu'il ne méritait pas d'être sauvé par lui-même. C'est encore un autre sujet, pourquoi elle a trouvé grâce. Mais c'est la violence. La terre était emplie de violence. C'est-à-dire, c'est saturation de mal moral, alors catastrophe sur l'humanité. Il ne s'agit pas du tout de problèmes de conduite religieuse. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Toute la première humanité dont la Bible nous raconte l'histoire est jugée d'abord à travers le problème moral, et ça continue. Et si vous faites un bilan du contenu du texte liturgique du vidou, de l'aveu au moment du repentir, vous verrez que l'essentiel de l'aveu porte sur des fautes, des risques éventuels de fautes d'ordre moral. Ça implique aussi, mais après ne m'interrompez pas, ça implique aussi des manquements au code religieux, mais ce n'est pas secondaire, mais c'est second. C'est d'abord sur le problème moral. Mais ce que je veux dire, c'est de revenir. Je viens de vous donner comme référence, vous le verrez vous-même dans les premiers versets du chapitre 6 de la Genèse, que le jugement de l'humanité a porté sur la conduite morale. Je vais vous donner un exemple du Midrash. Ensuite, vous me poserez la question, mais je voudrais d'abord illustrer cela. Ce Midrash explique l'état des mœurs avant le déluge. Et d'ailleurs, il y a dans beaucoup de chroniques littéraires des écrivains d'Europe avant la guerre de 70, avant la guerre de 14, probablement aussi avant la guerre de 39, des descriptions de l'état des mœurs dans la cité européenne qui font pressentir que la catastrophe va arriver. J'ai en tête surtout la manière dont Émile Zola parlait de la cité européenne. C'est un peu dans cette atmosphère-là que le Midrash que je vais vous citer se situe. Et voilà, les habitants du village faisaient la queue au marché devant un commerçant qui avait à vendre un sac de grains. Et chaque habitant du village prenait un grain du sac. Au bout de trois quarts d'heure, il n'y avait plus un grain dans le sac, mais on pouvait accuser et condamner personne d'avoir volé le sac, puisque chacun n'avait pris qu'un grain et ce n'est pas condamnable. Voilà, c'est très suggestif comme Midrash. Ça veut dire que c'est sur un comportement de l'ordre de la moralité que l'humanité a été jugée, lorsque le problème moral ne peut même plus être posé. Alors, il y a saturation de mal et condamnation. Et je crois qu'il y a une hypertrophie dans les sociétés religieuses, et c'est beaucoup plus tardif, de croire que le salut dépend de vétilles d'ordre liturgique. C'est intentionnellement que j'emploie ces termes-là. Ça ressort d'une espèce de déviation de conscience obsessionnelle. Mais c'est d'abord le problème moral qui est posé à l'homme. Et me revient à l'esprit une analyse sémantique en français. Vous savez ce qu'on appelait les avocats marrons. D'ailleurs, lisez les journaux, vous verrez ça tous les jours. Ce sont des hommes de loi qui étudient la loi pour savoir comment on peut la tourner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À partir du moment où une société fonctionne à ce niveau-là, on ne peut plus poser le problème moral. Alors il y a saturation de mal, la société est condamnée. Bon, je ne pense pas très précisément à ce qui se passe dans les tribunaux israéliens actuellement, mais je crois que c'est un problème des sociétés de droit, des sociétés légalistes, où la légalité prime la moralité. Et je reviens au sujet, c'est la première remarque donc, après vous me poserez votre question, pourquoi je vous ai parlé de cela, en parlant de ce qui est arrivé, comme cause profonde du déluge. Bon, c'est vrai, je reviens au sujet, on retrouvera le déroulement. Et alors voilà, lorsque Dieu propose pour la définition de qu'est-ce que ça veut dire proposer la Torah et accepter la Torah. Ça veut dire accepter que le sens de sa destinée soit jugé par le problème moral. C'est de ça qu'il s'agit dans toute la liturgie du repentir, du jugement, du repentir et de l'expiation. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. C'est une liturgie qui est propre à l'unique religion pour qui le salut passe par la loi morale. On ne trouve pas une liturgie de ce genre dans les autres religions. Vous n'avez pas ce qui se passe entre Rosh Hashanah, jour du jugement, les 10 jours de teshuvah, de repentir, qu'on appelle pénitence. En français, je ne sais pas pourquoi. Parce que teshuvah, ce n'est pas la pénitence. C'est une autre notion. Et puis, d'autre part, le jour de l'expiation, qu'on appelle aussi le jour du pardon. Parce qu'en hébreu, kapara, ça veut dire et expiation et pardon. Mais, parce que c'est la seule religion qui est la religion de la loi. Et d'autre part, cette religion de la loi est un culte. Mais ce n'est pas au niveau des fautes de culte que la destinée est en question. C'est au niveau du problème moral sur lequel la loi légifère que la destinée est en question. Est-ce que c'est bien clair ce problème ? Alors là, donc, j'enchaîne sur ce midrash, après vous avez la parole. Dieu propose à Ishmaël la Torah. Et Ishmaël demande, qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah ? Et Dieu répond, il est dans les 10 commandements, l'otikno, tu ne voleras pas. Ce n'est pas un midrash anti-arabe. Hein. Et Ishmaël dit, je ne peux pas accepter cette Torah, parce que la bénédiction que mon père m'a donnée, c'est, je vous cite le verset, la bénédiction qu'Abraham a donnée à Ishmaël, Yado bakol viatkol bo. Sa main sera sur tout et la main de tous sera sur lui. C'est toute l'histoire des rapports entre Ishmaël et l'humanité. Voilà. Expansion. Sa main sera sur tout. Je sais pas, le mot m'échappe. Comment on appelait cette extraordinaire expansion de l'islam qui est allée jusqu'à Poitiers et au-delà. À Poitiers, c'était que la moitié, mais maintenant ça continue, c'est partout. Et comment on appelle ça ? J'ai oublié. Hégémonie. Hein ? Hégémonie, quelque chose comme ça. Et alors, on est assez obsédé par la première moitié du verset, mais il y a la deuxième moitié du verset. Yado bakol, sa main sera sur tout, mais yadkolbo, la main de tout, sera sur lui. Je vous fais une petite parenthèse sur le sens que donne le Midrash. Avec les 3 patriarches, ça je m'excuse pour les noms hébraïsants, mais c'est une petite parenthèse rapide. La bénédiction des 3 patriarches, c'est pour Abraham, Bakol, pour Yitzhak, Mikol, et Yaakov, Kol. Est-ce que c'est clair? Et alors, relisons le verset. La main d'Ishmaël, Yado Bakol, la main d'Ishmaël s'agrippe à la bénédiction d'Abraham, Bakol. Mais Yad Kol, Bo, mais la main de Jacob, Kol, sera sur lui, Ishmaël. C'est clair en hébreu? Je l'ai dit en français, mais c'est en hébreu que je le dis. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la deuxième partie du verset. Alors ça veut dire, voilà, il y a un comportement qui nous est décrit de façon très claire par ce Midrash. On est sensible à la moralité. Mais voilà, tout se passe comme si on pense qu'elle est inaccessible. Parce qu'il y a dans la nature de l'homme quelque chose qui empêche de réaliser cet idéal de la moralité. Et c'est tout à fait la vision de la civilisation extérieure à Israël concernant le problème moral. Je vous citerai un des plus grands penseurs de l'humanité avant la diffusion de l'enseignement de la Bible, c'est Aristote. Et Aristote n'est pas dans le cas de l'amalgame dont j'ai parlé tout à l'heure, des philosophes postérieurs qui n'ont pas de pensée purement philosophique ou purement biblique. C'est un amalgame, c'est mélangé. Quand un philosophe athée nie les notions de la Bible, il est quand même imprégné par ces notions de la Bible qu'il nie. Tandis qu'Aristote était en dehors des notions de la Bible. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. Eh bien, je n'ai pas dit qu'Aristote était athée d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Eh bien, Aristote, dans son éthique, le dit de manière très claire. La morale est impraticable. Il y a un pessimisme profond de cette âme humaine, de l'option de l'âme grecque à cette époque, et qui a envahi la culture générale, qui est que la vérité morale ne peut pas être réalisée dans la réalité. Elle ne peut être que contemplée. L'éthique, c'est la contemplation de la morale. C'est très différent, la morale et l'éthique. L'éthique, c'est la connaissance des valeurs morales, c'est pas la pratique des valeurs morales. Et bon, c'est un autre sujet, vous voyez comment le sémantisme nous gêne. Et il y a une espèce de pessimisme profond. On a pris conscience de ce qu'est la nature humaine, connais-toi toi-même, et on sait très bien qu'on est incapable de pratiquer la moralité, de laquelle moralité nous subjugue, nous fascine, on y est sensible. Les valeurs du beau, les valeurs du bien, mais surtout les valeurs du bien, on y est sensible, mais il y a un pessimisme de renoncement. La morale n'est pas de ce monde. Vous voyez d'où ça sort, hein ? La morale n'est pas de ce monde. Et quand on véhicule des principes de ce genre, on aboutit à Auschwitz. La morale n'est pas de ce monde, donc c'est possible qu'on y arrive jusque-là, à Auschwitz ou au Rwanda. Vous voyez de quelle mentalité ça procède ? Il y a une option de l'âme grecque qui, en fin de compte, a choisi ce pessimisme-là. L'âme grecque est contemplative et tragique. La morale se contemple. Elle ne peut pas se... Vous percevez, je suppose, des sources grecques du refus chrétien de la loi. Impraticable. Si on acceptait la loi à la manière de cette folie des Hébreux qui acceptent la Torah, on serait condamné, damné à la première faute. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la nature humaine un obstacle, non pas à la vertu en général, mais à tel aspect de la vertu. Chaque ethnie va diagnostiquer dans sa culture anthropologique un obstacle à tel aspect de la Torah comme Torah. C'est un midrash extrêmement important. Alors, ça, je parlais de l'islam. Et je tiens à répéter, ça c'est pas du tout un midrash anti-arabe, mais on ne peut pas ne pas.